Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Commençons avec le chapitre 1 du livre de Zophonie, les versets 1 et 2. Parole de l'Éternel qui fut adressée à Zophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je supprimerai tout sur la surface du sol, oracle de l'Éternel. Verset 12. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et j'interviendrai contre les hommes accroupis sur leurs réserves, et qui disent dans leur cœur « L'Éternel ne fait ni bien ni mal ». Verset 17. Je mettrai les humains dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour du courroux de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, toute la terre sera consumée. Quand il provoquera l'extermination, combien épouvantable de tous les habitants de la terre. Rassemblez-vous et recueillez-vous, nations sans pudeur, avant que ne survienne le décret, et que ce jour ne passe comme de la menue paille, avant que n'arrive sur vous la colère ardente de l'Éternel, avant que n'arrive sur vous le jour de la colère de l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles de la terre qui exécutez son ordre, cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel. Verset 13. Il étendra sa main contre le nord, il fera périr l'Assyrie, et il fera de Ninive une désolation, une terre aride comme le désert. Des troupeaux feront leur gîte au milieu d'elle, des animaux de toute espèce, aussi bien le pélican que le hérisson passeront la nuit parmi ses chapiteaux. Une voix ululera à la fenêtre, la ruine sera sur le seuil, car les lambris de cèdres seront arrachés. Voilà donc cette ville d'amusement qui s'installe dans la sécurité et qui dit en son cœur « Moi et rien que moi ». Comment elle est devenue une désolation? C'est un gîte pour les animaux. Tous ceux qui passent près d'elle sifflent et agitent la main. Malheur à la ville rebelle et souillée, pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'accepte pas la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses ministres au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges sont des loups du soir, qui n'ont plus rien à ronger au matin. Ses prophètes sont des aventuriers, des hommes portés aux trahisons, ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Au milieu d'elle, l'Éternel est juste, il ne connaît pas de fraude. Chaque matin, il met en lumière son droit, sans jamais y manquer. Mais le fraudeur ne connaît pas la honte. J'ai retranché des nations. Leurs tours sont dans la désolation. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Les villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si tu me craignais, si tu acceptais la correction, sa demeure ne serait pas détruite. Je suis intervenu de toutes les façons contre elle, et cependant ils se sont hâtés de corrompre tous leurs agissements. C'est pourquoi attendez-moi, oracle de l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de réunir les nations, pour rassembler à moi les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors je rendrai purs les lèvres des peuples, pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel et lui rendent un culte unanime. au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront l'offrande. En ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous tes agissements, des crimes que tu as commis contre moi, car alors j'écarterai du milieu de toi ceux qui s'exaltent avec orgueil, et tu cesseras d'être arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont demeurés loin de toi, sur qui le déshonneur pesait comme un fardeau. Nous allons maintenant dans l'épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 11. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que, par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais s'il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Jusqu'ici, les lectures de la parole de Dieu.
Face à la parole de Dieu, et particulièrement face à Sophonie, je ne peux que me dire « Viens à mon secours, Seigneur, et accorde-nous d'être guidés par ton esprit. » Alors nous voici à nouveau dans un petit prophète, c'est le 8e que nous rencontrons dans notre série sur les 12 prophètes qui se trouve entre Daniel et Matthieu dans nos Bibles. Alors voici comme je résumerai le livre du prophète qui nous intéresse aujourd'hui. Sophonie, par un cri déchirant et violent, annonce le jour de l'Éternel, fruit du mal commis. Il veut réveiller le peuple en décrivant ce jour. Il est encore temps de se repentir, n'hésitez pas, et contempler la restauration promise par la présence du roi. Sophonie, par un cri déchirant et violent, annonce le jour de l'Éternel, fruit du mal commis. Il veut réveiller le peuple en décrivant ce jour. Il est encore temps de se repentir, n'hésitez pas, et contempler la restauration promise par la présence du roi. Mais avant de nous plonger dans ce livre, j'aimerais vous parler de 4 facettes que nous trouvons souvent dans les prophéties, et c'est particulièrement le cas pour le jour de l'Éternel que nous trouvons de manière appuyée dans Sophonie. Alors voici les 4 facettes d'accomplissement. La première, l'accomplissement dans le contexte du prophète. L'accomplissement dans le contexte du prophète. La deuxième, l'accomplissement ou les accomplissements dans l'histoire. Troisièmement, l'accomplissement dans l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. L'accomplissement dans l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. L'accomplissement dans le dernier jour ou le jugement dernier. L'accomplissement dans le dernier jour ou le jugement dernier. 4 facettes, 4 mots. Contexte, histoire, rédemption, dernier. C'est les 4 facettes de l'accomplissement des prophéties. Ces 4 facettes sont souvent enchevêtrées, entremêlées, superposées les unes sur les autres dans le même texte biblique. Voilà pourquoi il est parfois difficile de comprendre, car souvent nous ne regardons que par les lunettes d'une facette, par exemple le contexte du prophète. Mais tout n'est pas dit de façon explicite et détaillée pour le contexte direct uniquement, car il y a des allusions à la facette de l'histoire, celle de la rédemption et celle du dernier jour. Voyons ces quatre facettes avec le jour de l'Éternel dans Sophonie. Il y a un accomplissement dans le contexte du prophète Sophonie. Il est né pendant le règne du roi Manassé, qui a été le pire roi d'Israël qui a fait déborder le vase. Dieu a décrété que, à cause de Manassé, le jugement est inéluctable. Inéluctable veut dire que l'on ne peut pas lutter contre, que c'est inévitable. Ce jour de l'Éternel que Juda va vivre par la déportation à Babylone est un accomplissement dans le contexte de Sophonie à moins de 50 ans de sa prophétie. Par contre, durant la vie de Josias, qui est revenu à l'Éternel, sûrement aussi grâce à Sophonie, Josias a été préservé. Il y a plusieurs accomplissements historiques. Deuxième facette. À chaque fois que Dieu permet des catastrophes, des guerres ou des épidémies, ce sont des prototypes du jour de l'Éternel final. Sophonie nous dit par exemple que ni l'argent ni l'or ne peut délivrer de la détresse ou de la mort que Dieu permet. Rappelons-nous que le jour de l'Éternel et ses prototypes d'avertissement ne sont pas produits par Dieu, mais par le mal. Oui, Dieu dirige et juge, mais la cause du jugement, c'est toujours le mal. Troisième facette, il y a un accomplissement dans l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. Impossible de comprendre Sophonie, qui parle de jugement et de l'ardente colère de Dieu, puis sans transition de la purification des nations et de la délivrance, sans faire le lien avec l'œuvre de Christ. À la croix, nous voyons à la fois la colère et l'amour de Dieu. Dieu est juste, il va toujours juger le mal. Et Dieu est amour. Il est venu subir le jugement pour son peuple qui ainsi voit le jugement de Dieu s'abattre sur son Fils, et en même temps est sauvé par ce Fils qui donne sa justice à celui qui se repent et qui croit. Et quatrième facette, il y a l'accomplissement dans le dernier jour. Lorsque Dieu aura effectué le jugement final du mal dans sa globalité et sa totalité au jugement dernier, celui qui bénéficiera du salut de son Fils n'aura plus de malheur à craindre à aucun niveau. Celui qui est en Christ n'a plus rien à craindre spirituellement. Mais alors, ce sera aussi dans la vie de tous les jours, dans le royaume éternel de Dieu, où notre âme sera dans un corps prévu pour vivre éternellement. Dieu lui-même sera dans la joie, et Sophonie est le seul à souligner l'expression de la joie de Dieu lui-même. Alors je suis conscient que ces notions des quatre facettes d'accomplissement de prophétie n'est pas facile à saisir, dans le contexte historique, dans l'œuvre de rédemption et dans le dernier jour. Mais c'est une clé pour ne pas tomber dans des simplifications et garder la richesse de la parole de Dieu qui nous éclaire de façon bien plus large que nous ne l'imaginons dans ses prophéties. Entrons maintenant dans le livre de Sophonie. Sophonie commence par un cri, une parole choquante pour attirer l'attention. Voici ce que Dieu dit, « Je supprimerai tout sur la surface du sol. » C'est une allusion directe au déluge, et cette fois cela va plus loin, car les oiseaux et les poissons seront supprimés. La destruction va dans l'ordre inverse de la création. L'homme, les bêtes, les oiseaux, les poissons, cette décréation, si vous voulez, si nous regardons avec les lunettes de la quatrième facette, prépare la nouvelle création. Sophonie annonce que le jugement arrive. Il en donne les raisons et la manière. Ce sera notre premier point. Le jugement arrive. Au chapitre 2, il fait une pause et utilise un mot et transmet un message d'une importance capitale. Nous le verrons au deuxième point intitulé « Il est encore temps ». Pour tous ceux qui pensent encore pouvoir échapper, Sophonie utilise la géographie pour faire comprendre que les quatre points cardinaux sont concernés. Il n'y a aucun échappatoire. Au milieu de l'annonce du malheur, de la destruction et du retranchement, il y a déjà des étincelles d'espoir. Par exemple, en 2:7, il est dit « Car l'Éternel, leur Dieu, interviendra pour eux, et il ramènera leurs captifs. » Avant, c'est le jugement, et après aussi. Si vous regardez le verset 6 et le verset 8. Ou même dans le jugement annoncé de Jérusalem, il est dit en 3:5 « Au milieu d'elle, l'Éternel est juste. Il ne commet pas de fraude. Chaque matin, il met en lumière son droit sans jamais y manquer. » Ces étincelles nous préparent à la restauration, au salut du reste dont nous allons parler dans notre troisième point intitulé « La restauration ». Nous suivons ainsi le contenu du « Jour de l'Éternel » qui est composé de trois parties dont vous vous souvenez peut-être. Je vous avais parlé de Juge Libap. Juge Libap, le jugement des méchants, la libération du peuple de Dieu, l'application de la loi de Dieu. Ce sont les trois aspects du jour de l'Éternel qui ne sont pas toujours décrits, mais qui en font toujours partie. Et en réfléchissant à cela, j'ai trouvé une autre manière pour nous en souvenir, avec trois mots dont la première lettre se trouve dans J. Jour de l'Éternel. Jour de l'Éternel avec J-L-R. Jugement, libération, restauration. Trois choses qui font partie du jugement. Les trois points de ce jour correspondent à ces trois parties. Le premier point, le jugement arrive. Le deuxième point, il est encore temps. Et le troisième point, la restauration. Donc le jugement arrive. L'étude de Sophonie nous permet de plonger dans les raisons, la manière et les personnes concernées par le jugement. Alors je commencerai par les personnes concernées. Par exemple, les versets 5 et 6 du chapitre 1 nous donnent quatre types de personnes concernées par le jugement. Le premier type, ce sont les mystiques. Les mystiques, représentés par ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux. Si on prend un exemple, tous ceux qui adorent la nature, qui parlent de mère Gaïa, font partie de ce groupe et sont sous le jugement de Dieu, car ils ne reconnaissent pas leur créateur. Le deuxième type, c'est les syncrétistes, ceux qui parlent de l'Éternel, mais le mettent sur un pied d'égalité avec d'autres autorités, que ce soit un gouvernement ou quoi que ce soit d'autre. Mais on ne peut pas mélanger de l'huile avec de l'eau. Dieu ne peut pas être mélangé avec quoi que ce soit d'autre. Le troisième groupe, ce sont les opposants. Ceux qui se sont détournés de Dieu, ceux qui s'y opposent. Il existe même des personnes qui disent que Dieu n'existe pas, tout en étant fâchés contre lui. Cherchez l'erreur. Dans ce groupe, il y a aussi les moqueurs. Que ce soit gentillet ou carrément méchant. Et le quatrième type de personnes concernées par le jugement, ce sont les indifférents, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel. On s'en fout, on n'en a pas besoin, on peut très bien se débrouiller sans lui. Tous ceux qui se retrouvent dans ces groupes de personnes sont sous le jugement de Dieu. Celui qui ose leur dire que Dieu les aime, et qu'il veut leur bien tel qu'ils sont, est un menteur. Ils sont sous la juste colère de Dieu qui est créée et attisée par le mal qu'ils commettent. En fait, ils ne doivent pas entendre que Dieu les aime comme ils sont et qu'ils ne doivent pas changer. Ils doivent entendre le message de « Repentez-vous et croyez en Dieu qui va manifester son amour en vous transformant. » Un bon nombre de personnes de ces quatre types disent ce qui est écrit en Sophonie 1:12. Ils disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Particulièrement dans ces temps de Covid-19, ils disent, s'il y avait un Dieu, il ne laisserait pas faire cela. En fait, ils ne comprennent pas que Dieu, justement, permet cela pour les appeler à la repentance. Personne ne mérite de ne pas être atteint par le Covid, car nous méritons tous le jugement de Dieu. Personne ne mérite de ne pas être atteint par le Covid, car nous méritons tous le jugement de Dieu. Et pas seulement par le Covid, tout le monde, quelque part, devrait mourir. Qui oserait affirmer qu'il n'a jamais fait le mal dans sa vie ou qu'il a toujours fait le bien qu'il devrait faire? Vous savez, certains se disent, afin de ne pas pécher, je ne parle pas ou je n'agis pas, ainsi je ne risque pas de pécher. Mais si quelqu'un avait besoin d'un encouragement que vous pouviez lui dire et que vous ne l'avez pas fait, vous péchez. Ou que vous avez la capacité d'aider, par exemple dans un domaine où il y a un besoin d'aide à l'église, que vous ne le faites pas, vous péchez autant que si vous commettiez une faute. C'est ce qu'on appelle le péché par omission. Alors qui pourrait dire qu'il ne mérite pas d'être atteint par le Covid? Ou simplement de mourir? Si l'Éternel ne faisait rien, nous serions tous morts. Mais dans sa patience, il use de grâce afin que beaucoup se repentent encore. Quand quelqu'un vous dira que l'Éternel ne fait ni bien ni mal, la preuve, il n'intervient pas pour éradiquer le coronavirus, nous pouvons répondre que nous ne méritons pas de ne pas être atteints par ce virus. Et le simple fait que certains ne l'ont pas est une manifestation de l'existence d'un Dieu qui fait grâce et même qui guérit. Si nous avons parlé des personnes concernées par le jugement du jour de l'Éternel, regardons un peu les raisons. Il y en a beaucoup dans Sophonie, nous en verrons que peu. Une première raison de jugement, c'est la confiance dans les richesses. La confiance dans les richesses. Il est dit que Dieu interviendra contre les hommes accroupis sur leurs réserves. 1:12. Ou encore, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. 1:18. La confiance dans la richesse éloigne de Dieu, se moque de Dieu. Ceux qui ont de l'argent se sentent invincibles bien souvent. Ils pensent tout pouvoir acheter. On injecte même des milliards actuellement pour trouver une façon d'éradiquer le virus, car l'argent est tout puissant, pense-t-on. Mais que peut faire 1 000 000 de francs pour le mourant face à la mort, alors qu'aucun médicament ne peut le soulager? Que peut faire tout l'argent du monde face à une conscience torturée que l'on n'arrive pas à éteindre? Faire confiance à l'argent n'est jamais une bonne idée, si vous avez une vision un peu plus longue que la prochaine minute. Une deuxième raison du jugement, c'est l'orgueil égoïste. L'orgueil égoïste. La ville de Ninive est un exemple frappant. Il est dit en 2:15, « Voilà donc cette ville d'amusement qui s'installe dans la sécurité et qui dit en son cœur, « Moi et rien que moi. » Je veux faire ce que je veux, uniquement ce que j'ai envie. Que cela plaise à ceux qui m'entourent, que cela plaise à Dieu ou non, c'est bien égal. Tant que moi je m'amuse, que j'ai ce que je veux, mais quelle pente glissante terrible. Savez-vous comment vous débarrasser de vos amis? Eh bien, en disant et en vivant « moi » et rien que moi. Comment ne pas progresser dans la maturité et la sagesse? Eh bien, en disant et en vivant « moi » et rien que moi. Comment pourrir l'ambiance familiale, faire souffrir ses parents ou ses enfants? Eh bien, en disant et en vivant « moi » et rien que moi. Mais ce n'est pas le pire, car en disant et en vivant « moi » et rien que moi, Dieu est mis de côté. Bon, sauf quand il nous rend service et agit dans nos intérêts, mais agir ainsi, c'est accumuler la juste colère de Dieu pour le jour de l'Éternel. Nous pourrions encore parler de celui qui met un vêtement étranger. Rappelez-vous la parabole des noces, lorsque le roi trouve quelqu'un qui n'a pas l'habit de noces. Il est mis dans la géhenne. Alors, ce peut être par exemple le cas quand quelqu'un veut gagner son salut par ses bonnes œuvres. En fait, il n'a pas l'habit de noces qui est la justice de Christ. Il essaie de mettre sa propre justice. Nous pourrions encore parler de ceux qui remplissent de violence et de ruse la maison de l'Éternel. Donc ce sont des raisons de jugement. Rappelez-vous, Jésus qui a chassé les vendeurs du temple. Pour nous, cela signifie par exemple profiter de tout ce que l'Église donne et ne rien mettre au service de Dieu. En lisant le livre de Sophonie, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des quantités de raisons qui amènent au jugement du jour de l'Éternel. Personne ne peut dire que c'est une lubie de Dieu fondée sur rien du tout. Non, le jour de l'Éternel existe parce que le mal existe. S'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de jugement. La description de Sophonie de ce jour devrait nous faire réfléchir. Par exemple, 1.15 nous dit « Ce jour est un jour de courroux, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de dévastation et de ravage, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront le cor et la clameur contre les villes fortes et contre les tours élevées. Je mettrai les humains dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. » Êtes-vous conscient que le jour de l'Éternel est un jour terrible qui devrait nous faire trembler? Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez eu peur? Dans la nuit peut-être, ou face à quelqu'un de menaçant, ou peut-être dans un mauvais rêve? Eh bien, le jour de l'Éternel sera bien plus terrible, car vous comprendrez que vous méritez le châtiment éternel et que vous ne pouvez pas y échapper. N'y a-t-il donc plus d'espoir? Je vous l'avais annoncé, il y a un deuxième point intitulé « Il est encore temps ». C'est le début du chapitre 2 qui nous révèle un mot important, le mot « avant ». Avant le jour de l'Éternel, avant la colère ardente de l'Éternel, avant. Dès que le mot « avant » ne peut plus être prononcé, c'est trop tard. Après, ce n'est plus possible. Il faut que cela soit « avant ». Et j'aime ce mot parce qu'il me donne de l'espoir de voir encore des personnes être conduites au salut avant le jour de l'Éternel. Le verset 3 de Sophonie 2 est un point central du livre « Avant le jour de l'Éternel » où il est dit « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles de la terre, qui exécutez son ordre, cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel. » C'est simple et tellement difficile pour la personne orgueilleuse. Il s'agit de chercher l'Éternel, tout simplement, croire qu'il existe, lui parler, apprendre à le connaître. Exécuter ses ordres, chercher la justice et l'humilité vont découler de notre connaissance de Dieu. Exécuter ses ordres, chercher la justice et l'humilité vont découler de notre connaissance de Dieu. Plus nous le connaissons, plus nous comprenons qu'il sait exactement ce qui est le meilleur pour nous. C'est lui qui nous a fait. Plus nous le connaissons, plus nous désirons la justice. Nous comprenons qu'il nous donne la justice de Christ afin que nous n'ayons plus à prouver que nous pouvons être justes, mais que nous puissions chercher à vivre de manière juste en nous appuyant sur lui. Le texte peut paraître étonnant car il est dit « Peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel. » Mais Sophonie, bien qu'il devait pressentir cela, ne connaissait pas encore l'œuvre de Christ, parfaite, totalement et complètement accomplie, comme nous la connaissons. Voilà pourquoi le peut-être, grâce à l'œuvre de Christ qui est maintenant venue, ce peut-être est changé en certitude. Jésus dit en Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Il n'y a pas de peut-être. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors si tu entends ce message et que tu ne cherches pas l'éternel, tu ne places pas ta confiance en Jésus-Christ, réfléchis à ce que ce texte de Jean 3, 36 veut dire pour toi. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et cette colère sera manifestée au jour de l'Éternel. Or peut-être souris-tu et tu penses que j'exagère, que cela ne te touche pas ou que tu penses que Dieu ne peut pas être en colère. Eh bien, je ne peux que te supplier de lire, de relire Jean 3 ou de relire Sophonie et demander à Dieu de t'éclairer par son esprit en le désirant de tout ton cœur afin d'être éclairé. Viens à Dieu, viens à Dieu. Mais quel drame si tu restais sous la colère de Dieu quand le mot « avant » sera remplacé par « maintenant », ce sera trop tard. Et nous ne savons pas quand le mot « avant » aura disparu. Viens à Dieu pour apprendre à le connaître, à connaître la restauration, pour y entrer et t'en délecter. C'est d'ailleurs notre troisième point, la restauration. Comment une restauration est-elle possible après le développement si fort du jugement du jour de l'Éternel? Ne méritons-nous pas tous d'être jugés pour avoir fait confiance à l'argent trop souvent, pour avoir été égoïste, insouciant ou orgueilleux comme Ninive, et bien d'autres choses? Eh bien, la venue de Jésus-Christ nous donne la clé. Si un être infini et parfait subit ce jugement pour nous, alors la restauration est possible. La venue de Jésus-Christ nous donne la clé. Si un être infini et parfait subit ce jugement pour nous, alors la restauration est possible. Cela doit nous faire voir l'œuvre de Jésus-Christ encore plus grande, plus profonde, plus large et plus grandiose. Il a pris sur lui la colère du jour de l'Éternel décrit dans Sophonie. Je la méritais. Mais en Christ, il me donne la joie de prendre les versets 9 à 20 du chapitre 3 de Sophonie pour moi. La repentance et la foi qui se manifestent habituellement dans ma vie sont une preuve de son action en moi. Et voici ce qu'il fait. Il purifie les lèvres des peuples. Nous ne sommes pas des descendants physiques d'Abraham, cela nous concerne donc. Vous souvenez-vous d'une situation où Dieu purifie les lèvres? Oui, c'est ça, Ésaïe, lorsqu'il est conscient de la présence du Dieu trois fois saint, il est terrifié et il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Ésaïe 6, 5. Pourquoi ne dit-il pas que son cœur est impur? Parce que le cœur se manifeste par la bouche, et quand le cœur est pur, les lèvres sont pures. Lorsque le séraphin touche la bouche d'Ésaïe avec une braise brûlante, il dit que sa faute est enlevée, son péché expié. C'est le cœur qui est sali par le péché. La bouche n'est qu'un canal à travers lequel le cœur s'exprime. C'est le cœur qui est purifié lorsque les lèvres sont rendues pures. C'est le cœur qui est sali par le péché. La bouche n'est qu'un canal au travers duquel le cœur s'exprime. C'est le cœur qui est purifié lorsque les lèvres sont rendues pures. Sophonie 3.9 nous indique que l'Éternel dit « Alors je rendrai pures les lèvres des peuples », ce qui signifie qu'il purifie les cœurs. Et il le fait actuellement. C'est la troisième facette de la prophétie que nous vivons en rendant à Dieu un culte. rendre un culte, c'est adorer et nous apporter en offrande avec tous les fruits que cela implique. Alors nous ne pouvons pas tout voir dans ce chapitre que je vous invite à méditer encore aujourd'hui, mais regardez avec moi le verset 15 du chapitre 3 de Sophonie. L'Éternel a écarté de toi les jugements. Il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. L'Éternel a écarté de toi le jugement. Il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. Vous vous rendez compte de ce que l'on vient de lire? Il a écarté les jugements. Sophonie, depuis le chapitre 1 jusqu'à 3, verset 8, a expliqué de long en large les jugements. Ils sont écartés. Pour nous, Jésus a pris sur lui ses jugements. Ainsi, ils sont définitivement écartés. Car Dieu ne juge pas deux fois le même acte. Et si je suis en Christ, tous mes actes passés, présents et futurs ont été jugés et le jugement est tombé sur Christ. Il a écarté les jugements. Il a détourné l'ennemi. Quel est le plus féroce et implacable ennemi de votre corps? C'est la mort. Et le plus féroce et implacable ennemi de votre âme? C'est la mort éternelle, qui ne correspond pas à un état éteint, mais à une souffrance perpétuelle. Eh bien, Jésus a vaincu la mort, aussi bien la mort physique que la mort spirituelle. Il a détourné l'ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Jésus, le fils de David, donc roi, Jésus, Dieu lui-même, l'Éternel, a vécu au milieu d'Israël. Et Jésus sera éternellement au milieu de son peuple dans son royaume. Il est déjà là maintenant, ici, par son esprit, actuellement. Tu n'as plus de malheur à craindre. Un peu comme si on vous disait, il n'y a plus de coronavirus. Il a totalement disparu. Eh bien, il en est de même avec l'aiguillon du péché. Si le péché existe malheureusement encore, comme la peur du corona, il ne peut plus faire mourir éternellement celui qui est avec Christ. Tu n'as plus de malheur à craindre. Non pas que nous n'allons plus souffrir sur terre, mais ce sera passager parce que toute souffrance ici-bas a une fin pour celui qui est en Christ. Nous pourrions encore nous arrêter sur la célèbre expression « Sois sans crainte » du verset 16, que Jésus utilisera à plusieurs reprises avec ses disciples. Mais je termine avec le verset 17 qui est bien particulier. Généralement, il nous a dit que celui qui est sauvé est rempli d'allégresse, que celui qui est délivré est rempli de joie. Ici, c'est celui qui sauve, celui qui délivre, l'Éternel, notre Dieu, lui-même qui est dans la joie et qui a une allégresse triomphante. J'ai de la peine à imaginer la joie et l'allégresse triomphante de Dieu, mais je n'ai pas de peine à croire que ce sera contagieux. Quand la personne que vous aimez le plus au monde est dans la joie et triomphe d'allégresse, vous désirez l'accompagner dans son bonheur. En conclusion, Sophonie nous indique comment annoncer l'Évangile. Il parle du jugement qui arrive, il appelle à la repentance et annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. En parlant du jugement, il nous enseigne sur notre manière de vivre. Quand on parle de jugement, on peut toujours prendre l'inverse pour voir qu'est-ce que nous devrions vivre. Et nous pourrions dire que ce sont les impératifs. En parlant de la restauration, il nous enseigne sur le fondement sur lequel repose notre manière de vivre, la transformation que Dieu opère, qui est déjà pleinement accomplie en Christ et qui sera manifestée dans sa totalité lors de son avènement. C'est nos indicatifs. Nous n'agissons pas pour que Dieu œuvre favorablement notre égard. Ce serait mission impossible. Non, Dieu a agi en notre faveur, et c'est à cause de son œuvre que nous agissons selon sa parole. Lorsque vous ferez face à un choix cette semaine, il ne s'agit pas de se demander si je dois dire la vérité, par exemple, pour que Dieu me fasse du bien, mais bien plutôt parce que Dieu m'a racheté, parce qu'il prend soin de moi de manière à me rendre plus semblable à Christ, je vais dire la vérité et abandonner le mensonge. Plus nous devenons conscients de ce que Dieu a fait pour nous et les choses impérissables qu'il nous donne, comme la purification, une nouvelle identité, un héritage, un amour dans lequel nous pouvons aller puiser sans limite, une justice parfaite et tant d'autres bienfaits qu'il est impossible d'acheter par l'argent ou les bonnes œuvres. Plus nous devenons conscients de cela, et plus nous devenons conscients du jugement qui est tombé sur Christ et de la restauration qu'il opère en nous et pour nous, et plus nous voudrons vivre proche de lui, proche de ceux qu'il aime, et faire notre travail journalier de manière à lui faire un grand plaisir. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes face à ta parole, face à un livre qui décrit longuement le jugement, qui n'est pas facile à lire. Et j'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à prendre le temps de saisir ce jugement pour comprendre le jugement qui est tombé sur Jésus-Christ. Ce jugement que nous méritons parce que nous avons péché devant toi. Ô Éternel notre Dieu, j'aimerais te dire merci pour ce petit mot avant. Nous sommes avant le jugement final. Et il est encore temps de se repentir. Eh bien, permets que tous ceux qui m'entendent puissent se tourner vers toi, que ceux qui te connaissent se réjouissent, que toi-même tu te réjouiras du salut, que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent être touchés par ta grâce, se tourner vers toi, chercher ta face, chercher le secours, chercher la miséricorde, la grâce auprès de toi, et qu'ils puissent être sauvés, qu'ils puissent vivre, et que nous puissions vivre ensemble cette restauration, où tu nous donneras, Seigneur, cette joie de vivre avec toi éternellement. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.